Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis une nouvelle fois en compagnie de Yves Bonnardel. Salut Yves.
Salut.
Alors on est ensemble bien pour poursuivre ce petit cycle que nous avions annoncé aux auditeurs déjà la dernière fois quand tu étais passé fin janvier avec ce thème « Abolissons la viande ». Donc pour continuer un petit peu à parler sur ces différents thèmes qui sont qui régissent un peu la manière dont l'humain vit avec les autres êtres vivants et lui-même d'ailleurs. Mm-hmm. Et en introduction, en fait, on va reprendre le thème de la dernière fois, donc abolir la viande et nos rapports humains-animaux, puisqu'en fait, suite à l'interview que nous avons faite, Marianne nous a posé un certain nombre de questions, enfin te pose un certain nombre de questions. Tu me disais hors antenne que tu l'avais rencontré, que vous avez pu en parler de visu, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de le développer un petit peu pour les auditeurs. Et notamment, pour entrer direct dans le vif du sujet, ça concernait surtout le rapport que l'homme pouvait avoir avec les animaux domestiques, et en l'occurrence le chien.
Oui.
Voilà, alors je vais retrouver assez vite la question. Comment se comporter avec nos animaux domestiques, notamment les chiens, qui cherchent d'une certaine manière à se soumettre à notre autorité ? Ah voilà, moi en plus c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je trouve souvent, et je vais m'attirer les foudres, bien que la plupart le savent déjà, des propriétaires de chiens ou d'animaux domestiques, et j'arrive pas vraiment à comprendre ce désir justement d'avoir cette espèce d'être... un peu d'une peluche vivante qu'on est là en train de dominer. Et là, la question est posée dans l'autre sens. C'est le chien qui aimerait se faire dominer. Alors, voilà, je te laisse répondre.
Qui aimerait dominer, tu veux dire ?
Non, bah là, dans la question, c'est les chiens qui cherchent d'une certaine manière à se soumettre à notre autorité.
Oui. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je lui ai répondu, Marianne, c'est que je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Hein.
Alors, sans avoir de réponse toute faite, je voudrais que tu puisses peut-être expliquer... pour moi, ça rejoint quand même assez bien le rapport qu'on entretient avec les animaux, donc, ce qu'on avait abordé dans le premier interview, à savoir notre capacité à abattre comme ça des quantités d'animaux simplement pour continuer à tenir notre régime alimentaire basé sur de la viande et sur la domination animale. Et là, on se retrouve donc avec les animaux de compagnie et avec cette ambivalence de l'homme dominerait son animal de compagnie ou l'inverse, l'animal de compagnie a besoin de l'homme pour vivre. Est-ce vraiment vrai selon toi ? Est-ce que, ou alors peut-être question annexe, si on lâchait les chiens maintenant, est-ce que, je ne sais pas, 200 siècles d'histoire en commun avec eux ferait qu'ils n'arriveraient plus à se débrouiller sans l'homme ? Est-ce que c'est des questions que vous êtes posées aussi, le rapport entre l'homme et les animaux domestiques ?
Oui, là le rapport de domestication, c'est un rapport qui fait vraiment débat dans les milieux qui remettent en question l'exploitation animale. Il y a à la fois des gens qui refusent tout type de rapport de domestication, comme aliénant pour l'animal, comme l'entravant, comme étant des rapports d'enfermement ou de domination. Et il y a d'autres gens qui disent, mais en fait, dans certains cas, ces rapports-là peuvent être des rapports qui sont bénéfiques également à l'animal. Et donc, pourquoi les remettre en question ? Et aussi, pourquoi générer un apartheid des espèces et considérer que nécessairement, tout type de rapport qu'on peut entretenir avec les autres animaux serait un rapport malveillant ou néfaste ? Là, dans le cas des chiens, ça me paraît assez compliqué parce que il y a des centaines d'espèces de chiens qui sont ce sont des races, mais qui sont extrêmement différents les uns des autres. Je pense que un border collie est complètement différent d'un basset ou d'un dalmatien. Et ce n'est pas les mêmes problèmes qui se posent.
Espèces qui, d'ailleurs, pour la plupart, ont été façonnées quand même par l'homme depuis
un certain
temps.
Oui, complètement. Toutes, en fait, hein, a priori. On pense que l'ancêtre du chien, c'est le loup. Et que donc toutes les races de chiens actuelles sont issues d'une même souche. Mais quand on voit, certaines sont même plus interfécondes. Je veux dire, un basset et un dog allemand sont plus interféconds au sens où c'est pas possible physiquement, quoi.
Oui, ça ferait éclater l'un des deux.
Voilà, c'est ça. Moi, il me semble que c'est un peu à voir au cas par cas. Et en fait, les cas par cas sont extrêmement divers et différents. Je pense qu'il y a des animaux qui sont... il y a des chiens, notamment, qui développent des maladies extrêmement importantes, extrêmement rapidement. Et je pense que ça, c'est des races qui... dont les individus sont pas nécessairement très heureux de vivre et que ce serait pas un mal qu'ils disparaissent. Je veux dire que les races ne se reproduisent, enfin qu'ils se reproduisent pas et que voilà, qu'il y ait plus d'individus de ces races-là. Ensuite, moi, je ne suis pas nécessairement contre tout type de rapport de convivialité, disons, de commensalité avec les autres animaux. Ensuite, c'est compliqué parce qu'il y a un certain nombre de chiens, notamment, mais ça peut être aussi bien aussi des chevaux ou des bœufs ou tout ça, qui ont été sélectionnés au fil des siècles pour développer un rapport de servilité et aussi une volonté d'être utile, d'avoir une sorte d'acquiescement du maître. Enfin, qui fait, bon, par exemple, les border collés, ils sont malades s'ils travaillent pas, quoi. Si moi, j'en connais qui courent
le husky.
Oui, aussi. Enfin, donc, et c'est compliqué le type de rapport qu'on peut avoir avec ces animaux-là. Et quasiment, on est obligé de les faire travailler pour qu'ils soient heureux. C'est le cas dans certains cas aussi pour des bœufs.
Donc, ça rejoint aussi une phrase que tu avais dite à la dernière interview. Cela va-t-il à l'encontre de l'intérêt propre de l'animal? Bah là, en l'occurrence, si on ne le fait pas travailler, on va bien à l'encontre de son intérêt actuel, en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est extrêmement paradoxal, en fait.
Souvent, on arrive assez facilement à se dire, bon, le propriétaire de chien, de chat ou d'un autre animal domestique a souvent cherché un rapport peut-être de confiance, de convivialité, tout ce qu'on veut, avec son animal, là où il avait peut-être une carence humainement parlant.
Je ne sais pas si on peut parler de carence, hein, parce que ça serait comme si c'était pathologique, mais moi je pense que malheureusement ça correspond à des tendances normales chez les humains. La volonté de dominer, de maîtriser la vie d'un autre, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement vis-à-vis des autres animaux, mais aussi vis-à-vis des enfants. Hein.
Mmh. On est bien dans un rapport de domination qui est pas forcément hyper sain au départ.
Oui, c'est essentiellement un rapport de domination. Dans certains cas, ça peut ne pas l'être, hein, ou ça peut ne pas l'être entièrement. Mais essentiellement, effectivement, le rapport qu'on entretient aux autres animaux dans nos sociétés, et dans la plupart des sociétés, malheureusement, c'est un rapport de domination. C'est un rapport où on fait valoir nos intérêts sans se soucier de ceux des autres animaux, ou alors en faisant semblant de s'en soucier, c'est-à-dire en fait en projetant nos propres intérêts sur ceux qu'on dit être ceux des animaux, quoi. Mmh.
Et on peut expliquer que la domination peut être très douce, hein, simplement le fait de décider à quelle heure il mange, à quelle heure il sort pour faire pipi, à quelle heure il sort pour se promener, c'est déjà de la domination.
Il y a des animaux qu'on tient sous notre joug pour les choyer. Ce sont des êtres à choyer, comme il y a des êtres à produire de la viande, comme il y a des êtres à travailler, etc., quoi. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont sous notre emprise et que de fait, on ne tient pas spécialement compte de leurs intérêts. On essaye de se donner l'air de le faire, mais de fait, ils sont là pour être choyés, point, quoi.
Alors, j'espère que ça répondra un peu à la question de Marianne et peut-être...
Oui, je crois qu'elle posait une question beaucoup plus pratique et concrète, mais à laquelle je ne sais pas répondre. Mmh.
De si le chien était maintenant suffisamment formaté, disons, et donc en besoin d'être du coup avec l'homme.
Mmh. C'est le cas pour un certain nombre de races, ça c'est clair.
Mmh. Oui, on voit notamment dans les pays du Maghreb, les chiens sont libres justement, mais restent quand même vraiment à proximité des humains et mangent leurs détritus, les protègent d'ailleurs souvent, annoncent le danger. C'est vrai qu'ils pourraient partir, mais ils ne le font pas. Mmh. Alors, il y avait une autre question. Alors, comment se passer des engrais organiques d'origine animale pour l'agriculture? Et les engrais verts sont-ils durablement suffisants?
Oui, le problème se pose de façon très différente suivant les types d'agriculture, en fait. En agriculture de montagne, par exemple, pour l'instant, on ne sait pas bien comment se passer d'intrants d'origine animale. Enfin, je veux dire, là, dans notre région, par exemple.
Oui.
À part évidemment les intrants qui sont des intrants de synthèse, enfin qui sont des phosphates, des nitrates de synthèse, etc. Mais justement, là,
on parle du fumier, hein, on est d'accord.
Oui. Ensuite, il y a quand même de plus en plus d'alternatives qui sont recherchées et qui sont trouvées. Là, c'est intéressant. L'année dernière, il y avait la Chambre d'agriculture de la Drôme qui faisait état de 10 ans d'expérimentation dans ce domaine, c'est-à-dire comment se passer d'intrants d'origine animale pour les grandes cultures. Alors les grandes cultures, c'est les céréales, hein, c'est le blé, c'est le maïs, c'est le soja, c'est ce genre de...
Et c'était qui assez... sert d'ailleurs essentiellement à nourrir d'autres animaux.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc en fait, c'est quand même important de redire que la boucle se boucle.
Oui, complètement. Mais bon, c'était assez intéressant qu'ils aient fait ce type d'études, donc sur 10 ans. Ils l'ont fait parce que dans la Drôme, il y a justement, les ressources en intrants d'origine animale sont un petit peu insuffisantes. Donc ils cherchent un petit peu des alternatives. Et les résultats étaient quand même assez positifs. Globalement, ça approchait. Bon, c'était en bio, hein, donc il ne s'agissait pas de comparer avec la culture intensive à base de nitrate et de phosphate de l'agro-business, mais il s'agissait de comparer avec les meilleurs engrais d'origine animale en bio, hein, qui sont du style de la farine de plumes de volaille d'abattoir, et pas nécessairement de volailles qui viennent d'élevage bio. Et effectivement, dans un certain nombre de cas, on approchait de très près, voire c'était équivalent, les résultats à ceux avec les meilleurs engrais d'origine animale. Alors c'était basé sur les rotations des cultures et surtout les engrais verts.
Donc le compostage essentiellement.
Non, les engrais verts, c'est mettre en interculture des légumineuses qui vont produire de l'azote, dont les
Comment on
racines.
fait maintenant un petit peu dans la vigne, en tout cas dans le Diois, les gens le voient assez rapidement, facilement, c'est ces rangées qui sont plantées de divers graminées, de divers légumineuses, quoi, entre les rangs.
Oui,
Un auto.
les engrais verts, c'est utiliser des propriétés des légumineuses dont les racines en symbiose avec des bactéries vont fixer l'azote. Et donc, en fait, enrichissent le sol en azote. Donc, elles font elles-mêmes l'engrais, quoi.
Alors la question c'était est-ce durable de la même manière qu'une décision politique et populaire générale pourrait dire on arrête de manger de la viande, est-ce que le même type de décision pourrait se faire en disant on arrête aussi les engrais animaux et est-ce qu'il y a une solution possible
Ben,
réellement?
je pense que c'est possible si on arrête l'élevage, si on arrête la consommation de viande à grande échelle, dans la mesure où ça libérerait à peu près 70% des terres cultivées à l'heure actuelle, cultivées ou utilisées agricolement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a pratiquement les trois quarts des terres qu'on utilise au niveau agricole servent de façon directe ou indirecte à l'élevage. Soit de façon directe à travers les pâtures, soit de façon indirecte en produisant, je ne sais pas moi, du maïs par exemple pour nourrir le bétail ou ce genre de choses. Et ça veut dire que les trois quarts des terres pourraient être libérées et que donc on aurait moins besoin d'une agriculture à fort rendement productiviste et donc qu'on pourrait retourner à des modes culturaux qui sont bien, bien meilleurs pour les sols et pour de façon générale pour qui sont beaucoup plus soutenables.
Qui les appauvrirait moins vite,
Oui,
qui.
tout à fait, oui. Et donc, notamment, le recours aux engrais verts, mais ça peut être aussi, dans certains cas, les jachères, les assolements. Enfin, avant le tout élevage qui s'est développé en agriculture à partir du XVIIIe siècle, 19e, 18e siècle, oui, à peu près, en France, on fonctionnait beaucoup sur l'assolement triennal, par exemple, des trucs comme ça, qui étaient des modes culturaux qui étaient peu productifs. Mais à l'heure actuelle, on a inventé, mais on peut retrouver des types de culturaux de ce genre, mais avec toutes les innovations qu'on a développées depuis, notamment le compost, c'est une innovation qui est extrêmement importante. Ça n'existait pas autrefois. Et il y a énormément de connaissances aussi qu'on n'avait pas autrefois qu'on a à l'heure actuelle, notamment sur les engrais verts.
C'est l'ensemble de notre cycle qu'il faut tenter de modifier. Et c'est vrai que ça paraît logique d'utiliser des engrais animaux puisque c'est pour nourrir les animaux.
Oui, bah l'intérêt des engrais animaux, c'est que ce sont des engrais qui sont concentrés. Et donc, se passer des engrais animaux, ça signifie une réorganisation en fait des types culturaux. Mais ça n'a rien d'impossible. C'est de fait une réorganisation sociale aussi. Et de toute façon, ça ne peut pas avoir lieu sans une volonté politique de changer des choses qui sont complètement aberrantes à l'heure actuelle.
Ça me permet une question annexe, puisque tu avais envie d'aborder un petit peu ce matin la problématique France-Afrique. Alors glissons par exemple en Afrique, où souvent la pauvreté du sol, de fait, due à la sécheresse, souvent a été réenrichie, et ils réenrichissent la plupart du temps grâce à des engrais animaux. C'est-à-dire que nous, en Europe, souvent on parle du réchauffement climatique. Je fais une petite aparté. Le réchauffement climatique fait peur à très très peu d'Européens. Nous, le réchauffement climatique va faire qu'on va avoir des prairies encore plus vertes, etc. Par contre, la sécheresse sur le sol africain sera bien plus grande. Comment peuvent se sortir ces pays-là sans engrais de matière animale, par exemple.
Là, c'est pareil, c'est une question qui est... C'est très difficile de répondre à ça dans la mesure où il y a des situations extrêmement diverses. Et à chaque fois, c'est un cas par cas. Il y a des situations qui peuvent ressembler à certaines ici. Il y a des situations qui peuvent ressembler à l'agriculture de montagne qu'on a ici, par exemple, où pour l'instant, on n'a pas vraiment de très bonnes solutions. Il y a des situations où, au contraire, l'élevage est un facteur d'appauvrissement des sols, d'érosion et de martèlement des sols, etc. Donc c'est très divers, quoi. Je pense que là encore, fondamentalement, c'est une question politique, et c'est une question politique qui nous concerne, parce que tant que les pays du Sud seront sous la botte d'une économie mondialisée qui est l'économie capitaliste qui sert les grands capitaux, il n'y aura pas de possibilité d'autonomie des populations. Ici non plus, de toute façon, mais je veux dire, là-bas, les conséquences sont encore plus dramatiques. Et donc, la solution passe nécessairement par un renversement de l'économie, du système économique au niveau mondial et des systèmes politiques qui génèrent, qui sont des systèmes de domination, que ça se nomme démocratie ou dictature. D'ailleurs, ça ne se nomme plus jamais dictature.
Et pour terminer, peut-être sur ces engrais d'origine animale, on peut quand même préciser qu'un certain nombre de lisiers, de boues, etc. ne sont pas non plus 100% bénéfiques pour le sol, détruisent massivement des nappes phréatiques, ne serait pas le cas d'un engrais vert.
Oui, mais ça de façon générale, c'est le cas de l'élevage, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre.
Le méthane.
Oui, d'acidification des pluies, c'est la première source de pollution des nappes phréatiques, etc. C'est-à-dire que l'élevage, au niveau écologique et au niveau global, est une catastrophe au niveau mondial. Quoi.
Et depuis 200 siècles.
Oui, alors, oui, parce que, effectivement, mais ça a beaucoup évolué aussi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a 200 siècles, je ne sais pas, mais il y a 20 siècles, c'est clair que, par exemple, c'est l'élevage qui a causé une grande partie de la déforestation tout autour de la Méditerranée. Il y avait des vertes forêts tout autour de la Méditerranée il y a, disons, 3000 ans à peu près, ou 4000 ans. Mais alors, les problèmes actuels sont encore différents, parce que c'est beaucoup l'industrialisation de l'élevage, ou alors des élevages intensifs, mais qui sont assez destructeurs, les élevages de bovins, par exemple, qui sont très destructeurs des sols, etc.
On va changer une autre fois de sujet, puisque ça fait aussi partie de tes compétences, et ce sera la dernière question de Marianne. Qui est comment être respecté dans notre autorité par nos enfants qui sont eux aussi conditionnés au comportement de soumission-domination dans leurs échanges sociaux. Voilà, alors là on va sur un thème que tu maîtrises un peu, il y a eu des textes là-dessus. Et d'ailleurs la formulation moi aussi m'interpelle vraiment, c'est que donc on a déjà considéré, et Marianne peut-être fait partie des gens qui ont déjà considéré que de toute façon notre société était conditionnée et qu'on ne pouvait pas faire autrement.
Oui, alors je ne sais pas si c'est pareil, si je peux vraiment répondre à ce type de question. Moi, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas développé des pratiques ou des savoir-faire en la matière. Enfin, un petit peu, parce que je fréquente les enfants des autres. Je fréquente pas mal d'enfants qui sont non scolarisés. Et c'est des enfants qui ne posent pas les mêmes problèmes que les enfants qui sont passés par l'école. On est beaucoup moins dans le rapport de force, par exemple. Des enfants qui ont vu en général leurs besoins satisfaits, qui n'ont pas été humiliés, qui n'ont pas été soumis justement par la force, en général sont beaucoup plus respectueux des autres. Et ça, je parle vraiment d'expérience à ce niveau-là.
Et le rapport de compétition peut-être aussi.
Oui, tout à fait, oui. Ben oui, le rapport de compétition qui est omniprésent à l'école.
Voilà.
Et on le voit, c'est-à-dire que moi je connais des enfants qui étaient non scolarisés, qui ont été à l'école, et au bout de quelques mois seulement, ils commencent à se comparer par exemple, et à dire moi je... en comparaison aux autres, etc. Quoi. Moi, je me rappelle, là, il y a quelques années, j'ai été à un camping pendant une semaine où il y avait à peu près 80 familles d'enfants non scolarisés qui se retrouvaient à ce moment. Et c'est des gens qui produisent beaucoup d'enfants, un peu comme les cathos intégristes.
Ou les mormons.
Ou les mormons. Moi, c'est des gens très différents. Hein. Là, je caricature un petit peu en disant ça. Mais en tout cas, il y avait plein d'enfants. Il devait y avoir 200 enfants, un truc comme ça. Dans le camping, ça faisait des nuées d'enfants qui s'abattaient comme ça dans tel ou tel coin. Et au bout d'une semaine, j'ai réalisé que je n'avais pas vu Un seul conflit violent entre les gamins. Je n'avais pas vu à un seul moment un gamin mis au banc des autres. Au contraire, je voyais toujours quand il y en avait un qui s'était fait mal, et ben les plus grands venaient le réconforter, etc. Quelque chose que, absolument pas les mêmes types de rapports sociaux que ceux qu'on voit dans les cours de récréation.
Ou en dehors de la cour, une fois qu'on y est passé.
Pas les mêmes cris non plus, c'était pas les mêmes types de cris, etc. Enfin, c'est vraiment.
Est-ce qu'on joue moins à se flinguer ou est-ce qu'on joue moins à la poupée?
J'ai l'impression, mais bon, peut-être c'est moi aussi qui.
Qui du coup est à
qui...
idéaliser
Oui, c'est
cet
possible,
espace?
hein. Ouais.
Et tu n'as pas d'enfant, pardonne-moi cette question peut-être indiscrète, par choix ou parce que ça s'est pas présenté
Ah
malheureusement?
oui, non, c'est pas du tout indiscret, non, c'est par choix en fait.
D'accord.
Ouais. Non, j'ai décidé quand j'étais ado que la vie était pas simple et que voilà, que j'aurais pas d'enfant, que je prendrais pas le risque de mettre quelqu'un au monde qui soit pas bien.
Et dans ce conflit dont on parle?
Oui, bah notamment, je pense qu'on vit dans une société qui dit beaucoup aimer les enfants et vouloir leur donner une place centrale et les mettre en avant, les enfants d'abord, etc. Et en fait, à mon avis, qu'il leur réserve une place qui est vraiment une place qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi, en fait. Les enfants n'ont aucun droit, aucun pouvoir sur leur propre vie, au moins théoriquement, jusqu'à l'âge de 18 ans, quoi.
Alors, la France-Afrique, un petit peu.
Ah!
Aujourd'hui, tu avais envie de. On change complètement de sujet et tu avais envie de nous parler de ça. Alors là, encore une fois, on est clairement dans les mêmes types de rapports qu'on essaie de décrire depuis le début, de domination. Et là, notre période coloniale, ça me permet un petit qui a été cité dans une émission de Polémique, c'est La Voix Off, qui passe donc tous les lundis sur RDOA, un peu de pub en passant, où ils ont fait une spéciale concernant la loi française qui voudrait asséner à l'État turc de reconnaître son génocide arménien, là où la France n'a absolument pas reconnu aucun des génocides qu'elle a pratiqués sur le sol africain, et ça après la guerre de 40.
Tout à fait.
Alors, je te laisse nous emmener un petit peu en France-Afrique.
Oui, moi j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là quand j'ai été en Amérique latine et que j'ai été immergé dans les luttes qui étaient menées au Mexique, qui étaient des luttes paysannes, qui étaient des luttes extrêmement violentes, enfin, où il y a pas mal de gens que j'ai connus qui se sont fait tuer, et où j'ai vu ce qu'était la mainmise nord-américaine sur tout le continent du Sud. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai entendu parler du fait qu'il y avait un précaré français en Afrique. Si ça se trouve, on a une situation qui est un petit peu similaire. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au rapport France-Afrique du fait d'avoir été, c'est étonnant, en Amérique latine, quoi.
Suite au rapport qu'entretiennent les États-Uniens
Oui.
avec quasi, enfin en tout cas toute la bordure pacifique déjà massivement, hein, je pense
Oui,
bon,
oui.
Colombie, Bolivie, tout ça. D'accord.
Toute l'Amérique du Sud, je dirais, en fait.
Même Brésil compris?
Oui, je pense que le Brésil est quand même beaucoup, beaucoup sous l'influence américaine.
Le modèle peut-être en tout cas.
Le modèle, mais aussi une influence politique, à mon avis, assez coercitive, ouais.
D'accord.
Malgré Lula, malgré.
Alors, nous, ce qu'on a en France de ce qui se passe en Amérique latine, c'est des guérilleros, c'est des FARC, c'est des terroristes, et puis en face, des paramilitaires, souvent payés et armés par les États-Unis. Par contre, d'infos de ce type-là en Afrique, on en a assez peu. Alors, sans doute dû à notre rapport un peu tendu entre la France et l'Afrique.
Oui, tout à fait.
Mais
Enfin,
est-ce que c'est vraiment la même situation?
alors, c'est pas la même situation. C'est pas la même situation dans les détails, dans la pratique. C'est une situation qui est largement aussi meurtrière et horrible, voire pire. Je pense que la France fait beaucoup plus de dégâts globalement en Afrique que ne font les États-Unis en Amérique latine, en tout cas en nombre de morts. Par exemple, on estime que sous le règne de Mitterrand, il y a environ 10 millions de personnes qui ont été tuées directement. À cause des guerres fomentées par la France en Afrique. Je pense qu'à aucun moment les États-Unis n'ont atteint n'ont fait des carnages pareils en Amérique latine, même si le nombre des victimes se compte en centaines de milliers de morts. notamment quand il y a eu tout le cycle des coups d'État à partir des années 60 jusque dans les années 70. L'opération Condor, enfin ces opérations-là qui étaient absolument meurtrières et dévastatrices, c'était rien comparé à ce que la France a pu faire en Afrique. En fait, en Amérique latine, c'était quand même beaucoup des luttes contre le pouvoir populaire. Alors, du coup, ça a quand même énormément touché les populations civiles. Le Nicaragua, par exemple, les luttes des Contras contre la population nicaraguayenne, c'était effectivement une lutte contre la population et non pas spécialement contre les forces armées des sandinistes.
D'accord. Parce que souvent, on s'imagine, voilà, des gens, les coups d'État sur coups d'État, une partie de l'armée, d'autres factions qui se... Voilà, puis que la CIA alimente un peu tout le monde pour permettre de garder les bons chefs au bon moment.
Oui, ça peut être le cas, mais quand même, globalement, ceux qui trinquent, ce sont les populations civiles, en Amérique latine. Mais en Afrique, pareil, hein. En Afrique, il y a énormément de guerres qui sont fomentées. D'abord pour vendre des armes, tout bonnement. Par exemple en République démocratique du Congo, ce qu'on appelle maintenant République démocratique du Congo, à un moment donné la France fournissait en armes à travers ELF, qui est un faux-né des services secrets, les deux parties en présence. C'est-à-dire qu'elle soutenait les deux parties et surtout elle tirait bénéfice des deux parties.
Alors tu peux nous en citer quelques-uns de ces grands bordels qu'a mis la France Là, tu as cité la République démocratique du Congo.
Oui.
Déjà, deux termes collés sont assez étonnants. On peut parler de la Côte d'Ivoire, de Madagascar peut-être,
oui,
et du
Rwanda. On peut parler du Rwanda aussi, parce que quelque part c'est vraiment emblématique de ce que c'est que la politique française. C'est-à-dire une politique d'une criminalité immense, enfin, qui est inimaginable. Le Rwanda, c'est le génocide au Rwanda, donc c'est ce à quoi je fais référence, qui débute en avril 1994, qui dure... Il dure, allez, 2-3 mois. En 2-3 mois, il y a entre 1 et 2 millions de personnes qui sont tuées, pour beaucoup à l'arme blanche, à la machette, dans des conditions qui sont inimaginables, qui sont monstrueuses. Et avec le soutien, et c'est pire que le soutien, c'est avec en fait la...
Oui, parce que, excuse-moi, pour resituer un petit peu, la plupart des gens pensent qu'au Rwanda, ce sont deux ethnies, donc d'Africains, hein, qui se sont mis sur la gueule, et puis nous, bon, c'est pas vraiment notre problème. Hein. S'il y a deux ethnies là-bas, c'est une guerre civile.
Oui, c'est ça. Mais c'est la façon dont ça a été rapporté dans les médias français, notamment. C'est-à-dire dans Le Monde, dans Libé, dans Le Nouvel Observateur, etc.
Quoi. Dans Les Indépendants, même. Hein.
Non, mais oui, tout à fait. Là, encore, on retrouve des relents de ce négationnisme dans Politis, récemment, par exemple, qui est un journal de gauche. Qui se veut indépendant et qui est indépendant d'ailleurs.
Alors éclaire-nous, avec le soutien de, et je t'ai coupé à ce moment-là.
Oui, c'est même pire que le soutien en fait, hein, c'est que c'est un génocide qui a été d'une certaine façon programmé par l'État français, par l'État-major de l'Élysée, à l'époque c'était Mitterrand qui était au gouvernement, c'était Balladur qui était Premier ministre. C'est un génocide qui a été soutenu médiatiquement, financièrement, militairement, diplomatiquement par la France, qui n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien vraiment indéfectible de l'ensemble des hommes de pouvoir français, enfin des hommes qui étaient au pouvoir à l'époque en France. Dans le tas, il y a Juppé, et Sarkozy était au ministère des Finances. Il a sûrement vu passer un chèque du Crédit Lyonnais qui a permis d'acheter 500 000 machettes quelques mois avant le génocide. Il a dû sûrement signer le papier qui donnait l'autorisation de faire transiter ce chèque-là. Mais il y avait aussi Léotard.
Et puis une gauche absente.
Et une gauche absente, si ce n'est Mitterrand qui était au pouvoir, oui. Et qui a tout organisé, qui était en lien téléphonique constant, 24 heures sur 24, avec les forces françaises qui étaient présentes de façon secrète sur le théâtre du génocide.
Alors, est-ce qu'on connaît le but de cette manœuvre, hein, puisque le massacre des Algériens à l'aube de leur indépendance, on peut à peu près comprendre. Genre, la France n'a pas envie de lâcher ce territoire. Là, dans ce cas précis du Rwanda, pays très sec, pauvre, quel était le but ?
C'est pas du tout un pays très sec ni très pauvre, mais effectivement, je sais pas pour cette raison, mais on a appelé le Rwanda la petite Suisse africaine. C'est le pays des mille collines, c'est un pays au contraire assez verdoyant, plutôt riche au niveau agricole, mais surtout qui se trouve dans la région des Grands Lacs, au confluent de grandes régions extrêmement riches, notamment en bordure du Zaïre, l'ex-Zaïre, maintenant République démocratique du Congo. Donc dans un endroit central. Ce qui se passe, c'est que, enfin, pour faire vite, hein, c'est un pays qui a été colonisé par les Allemands au début du XXe siècle.
D'ailleurs, un des seuls pays africains colonisés par les Allemands.
Oui,
hein.
Oui. Qui ont donc perdu cette colonie à la fin de la Première Guerre mondiale, qui a été récupérée, mis sous mandat belge par la SDN. Les Belges ont installé une sorte de hiérarchie en créant de façon assez artificielle l'idée de deux races, la race des Tutsis et la race des Hutus.
Sur leur modèle à eux.
Sur le modèle à eux, c'est-à-dire que les Tutsis étaient dépeints comme des sortes de nègres blancs, quoi, et ont été placés au poste de pouvoir. Et simplement, quand dans les années 50-60, il a commencé à y avoir le vent des indépendances, les élites Tutsis, qui étaient des élites du coup plutôt européanisées, enculturées, etc., commençaient à vouloir effectivement prendre leur indépendance du joug belge. Et aussi de l'Église catholique. Il faut savoir que le Rwanda, c'est le pays le plus catholique du monde. 99% de pratiquants, enfin un truc délirant. Et les élites Tutsis voyaient bien, avaient le projet d'un État laïque, ce qui ne plaisait pas au Vatican. Et donc les Belges et le Vatican ont orchestré des campagnes anti-Tutsis, calquées sur le modèle des campagnes antisémites qui avaient sévi quelques 10 ou 20 ans auparavant, avec le succès qu'on sait en Europe. Donc en fait, on donnait aux Tutsis le visage des Juifs, quoi, grosso modo. Un peuple intelligent, dominateur, fourbe, pour reprendre quasiment les mots de De Gaulle par rapport aux Israéliens. Et ont organisé en fait une sorte de réaction anti-Tutsi et ont mis au pouvoir en 59 Kayibanda, qui était le secrétaire de l'archevêque de Kigali. C'était le secrétaire de l'archevêque de Kigali qui a fait un coup d'État et qui a été mis au pouvoir et qui a fondé son règne sur l'anti-tutsisme avec vraiment un discours inaugural de la République Hutu, donc une République socialiste Hutu, national-socialiste. Enfin, il disait pas national-socialiste, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais c'était...
Elle était encore très démocratique et très républicaine.
Oui, c'est ça. Mais il a vraiment fondé, inauguré sa république par un discours qui était de type génocidaire anti-Tutsi, quoi. Bon, je passe sur les détails, mais il a été renversé par Habyarimana, a été tué dans des conditions atroces. Mais Habyarimana a continué à établir son empire sur le Rwanda en utilisant des mêmes méthodes, c'est-à-dire le racisme anti-Tutsi, etc. Simplement, il a commencé à faire des petits génocides de ci, de là, dans les années, fin des années 80, enfin non, en 90, et a été lâché par la Belgique parce qu'il y a eu des articles de dénonciation de ça, et l'opinion publique belge s'est émue de ça et a obligé le gouvernement belge de retirer ses billes du Rwanda. Du coup, c'est la France qui a pris la relève.
Voilà, j'avais demandé à quel moment on arrive.
Et en 1990, directement, les Belges se retirent, les Français arrivent, tout contents. Du coup, bon, ils bossaient déjà main dans la main avec les Belges avant. Hein, il faut pas, mais en tout cas, tout contents de poser vraiment le pied sur le Rwanda, rêvant d'y établir des bases militaires et le faisant, et commençant à soutenir le régime d'Habyarimana et notamment à former des milices génocidaires, c'est-à-dire à jouer vraiment le jeu du régime.
Je vais reposer une question pour bien comprendre. Donc le Rwanda est un pays globalement riche, en tout cas qui s'en sort bien au point de vue agricole,
voilà,
etc.
Oui, c'est rien de particulier, mais il n'avait justement pas spécialement de ressources minières.
D'accord, donc il n'y a pas d'échange économique particulier non plus. Enfin,
oui,
dis,
mais
y a
en
pas
même temps,
c'est
ce qui le sauvait à l'époque. C'est-à-dire que les pays qui ont des ressources minières sont des pays complètement appauvris, sous des régimes dictatoriaux, etc.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est absolument pas une chance pour les populations de posséder des richesses, parce qu'en général, elles sont laminées. Mmh. Et ça vaut à l'échelle mondiale.
Je voulais faire le parallèle, par exemple, entre l'action de la France en ce moment en Libye, qui est clairement pour avoir un petit peu du pétrole libyen. On a raté notre coup avec l'Irak, on en a ici.
Oui.
Et là, au Rwanda, ce n'est pas le cas.
Au Rwanda, non, ce n'est pas le cas.
Donc, pour bien comprendre, je termine, c'est uniquement une position centrale en Afrique à proximité d'un certain nombre de pays, donc une sorte de dispositif militaire qui est plus visé par la France.
Oui, c'est des considérations géostratégiques.
D'accord, voilà.
À ça s'ajoute le fait que, bon, parce que ce qui s'est passé à partir d'années, dans les années 90, il y a le fait qu'il y a il y a des opposants au régime dictatorial de Habyarimana et au régime raciste de Habyarimana qui ont commencé, qui étaient réfugiés dans les pays limitrophes, qui ont participé à des luttes d'indépendance dans ces pays-là, qui se sont donc armés et qui ensuite ont formé des troupes armées pour combattre le régime d'Habyarimana au Rwanda et donc qui ont fait la guerre au régime et qui menaçaient le régime. C'est à ce moment-là que la France intervient pour soutenir le régime. C'est aussi un moment où Mitterrand avait besoin de rassurer l'ensemble des potentats soutenus par la France en Afrique sur le fait que c'était bien lui qui tenait les rênes de la politique française, de la politique étrangère française, etc. Parce que Balladur avait pris. Donc, Balladur, hein, premier ministre de droite, s'il y avait cohabitation, quand il est devenu premier ministre, a pris la décision contre l'avis de Mitterrand d'indexer le franc CFA. C'est le franc qui sévit en
En
Afrique,
Afrique.
qui était à l'époque indexé sur le franc français, et qui est une monnaie, c'est une monnaie qui est captive en fait, et qui est dépendante de la banque française, il faut savoir ça.
Extrêmement dévalué,
Oui,
en plus.
complètement, oui. Donc il avait justement, Balladur avait décidé de le dévaluer à nouveau, contre l'avis de Mitterrand, ce qui était un message extrêmement négatif pour l'ensemble donc des gens qui bossent de façon générale avec l'Élysée, qui sont les dictateurs en place. C'était Déby au Tchad, c'était Bongo, c'était Yadema au Togo, etc. Donc Mitterrand avait besoin de réasseoir son autorité, et on imagine que le fait qu'il ait soutenu le régime d'Habyarimana contre le Front populaire, contre le Front patriotique rwandais, qui étaient les forces qui l'attaquaient, tenait aussi à des considérations globales liées à l'ensemble de ce qu'on appelle la France-Afrique, qui est cette nébuleuse de rapports à la fois de domination et de complicité mutuelle contre les populations et pour l'extorsion des richesses.
Pourquoi donc avoir, en plus de soutenir ce régime-là, soutenu aussi les autres et équiper tout le monde pour que tout ce joyeux peuple se massacre
Mais là,
Parce que tu parlais de Elf qui avait permis
alors
d'acheter.
ça, c'était pour la République démocratique du
Oui,
Congo.
du Crédit Lyonnais, je ne sais plus, mais enfin.
Alors, pour le Crédit Lyonnais, ça concerne le Rwanda. C'est qu'effectivement, c'est des sous français qui ont servi à acheter 500 000 machettes à la Chine quelques mois avant le déclenchement du génocide. C'est des machettes qui ont servi à découper les gens, jusqu'à ce que mort s'en suive. En fait, là, dans ce cas précis, la France a clairement soutenu un seul camp, qui était le camp du gouvernement en place, Habyarimana, etc.
C'est ce camp du gouvernement en place qui a massacré l'autre ethnie. Donc
Oui, c'est
les.
ça. Ils ont été acculés militairement par les forces du Front patriotique rwandais, qui n'étaient tenus à distance finalement que par l'intervention des forces françaises, qui sont intervenues sur place. Et ils ont eu le sentiment que leur dernière chance de sauver le régime, c'était de lancer l'ensemble de la population dans une sorte de lutte désespérée, et qui passait par le génocide
Par le spécisme.
par le génocide de 10% de la population qui était identifiée à l'ennemi, en fait, les Tutsis, donc.
Et alors, comment ça s'arrête cette histoire? Pourquoi ça s'arrête d'ailleurs?
Mais
Et est-ce que
d'une
la
certaine
France a lâché à un moment
Alors,
aussi?
non, enfin oui et non, malheureusement, ça ne s'est pas vraiment arrêté. Le génocide sur le sol rwandais s'est arrêté parce que les forces du gouvernement ont été vaincues par le Front patriotique rwandais, malgré l'intervention de la France.
Voilà, donc le peuple a quand même gagné.
Disons, les forces armées du Front patriotique rwandais ont gagné. C'est les seules qui se sont souciées d'enrayer le génocide. Bon, et elles ont pris le pouvoir, elles ont refoulé les forces génocidaires, les forces armées génocidaires à l'extérieur, au Nord Kivu, qui était donc à l'époque au Zaïre, qui ont pu s'expatrier avec le soutien de l'armée française. Mitterrand, avec l'aide de Kouchner et compagnie, avait organisé l'opération Turquoise pour créer, soi-disant, une zone humanitaire sûre, qui en fait a servi l'exfiltration des génocidaires, qui ont pris en otage en plus une partie des populations rwandaises, Hutu. et qui ont été s'établir, et enfin il y a eu 2 millions de réfugiés, donc dont pas mal de réfugiés qui ont été s'établir donc de l'autre côté de la frontière au nord Kivu. Il faut savoir que pendant toute la durée de cette opération turquoise, donc création d'une zone humanitaire sûre, le génocide a continué au sein de cette zone et les génocidaires ont continué à être fournis en essence, en armes et donc ont pu gagner en toute sécurité la frontière. Où ils ont créé des camps, où ils ont pu, à partir de ces camps, se réorganiser et essayer de faire des incursions de nouveau sur le sol rwandais pour déstabiliser le régime qui venait de s'installer. Ça a été une catastrophe gigantesque parce que ça a été le début d'une guerre qui a enflammé tout le Zaïre, enfin bon, la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que, évidemment, le pouvoir qui venait de gagner le Kigali, la capitale rwandaise, et qui venait d'interrompre le génocide, s'est trouvé en butte à ces attaques, donc est intervenu au Nord Kivu pour faire la guerre à ces bandes armées. Ça a été une catastrophe générale. Enfin bon, parce que c'était des gens il y avait 2 millions de réfugiés, donc ils ont eu le choléra. Enfin bon, par ailleurs, ils ont aussi morflé énormément. Il faut savoir quand même qu'ils ont eu le statut de réfugiés, alors qu'en fait, normalement, des responsables de génocide n'ont pas droit à ce statut-là. Ils ont été aidés par énormément d'ONG, avec le soutien bien sûr de l'armée française. Mais ensuite, ça a dégénéré dans cette région-là, parce que c'est aussi une région qui est extrêmement riche, juste pour le coup, en diamants et autres richesses du sous-sol. Et ça a dégénéré, au bout de quelques années, en une guerre qui est, que moi j'appelle la Troisième Guerre mondiale. Qui est une guerre qui a fait entre 4 et 6 millions de morts, qui a vu plus de 10 nations rentrer, être belligérantes sur le sol zaïrois. Évidemment, on n'en a pas parlé en France, enfin pas sous cet angle-là, mais par l'ampleur qu'elle a eue, l'ampleur des dégâts qu'elle a occasionnés et le nombre de nations qui sont rentrées en guerre, les unes avec les autres et les unes contre les autres, on peut réellement parler d'une guerre mondiale.
Et
Mais une guerre
alors?
mondiale en Afrique, ça n'a pas d'impact.
Non. Ça n'a pas d'importance.
Non, ça n'a aucune importance. Mais de la même façon qu'un génocide en Afrique n'a pas d'importance. C'est une phrase qui est très connue de Mitterrand, qui a été rapportée dans Le Figaro, qui a dit, dans ces pays-là, un génocide, ça n'a pas tellement d'importance. Enfin, je fais
Ils
partie
sont
de...
tellement, ils se reproduisent tellement vite, hein, pour
Oui,
parler
et puis
vite.
l'Afrique, bon, de toute façon, le racisme, en tout cas en France, le racisme hérité du colonialisme est suffisamment fort pour que personne ne se soucie de ça. Moi, je fais partie d'un collectif d'édition donc qui publie des bouquins sur pas mal de sujets. Et on a édité notamment un bouquin qui s'appelle Un génocide sans importance, la France et le Vatican au Rwanda, qui fait explicitement référence à cette phrase historique de Mitterrand, quoi.
Tout ce que tu viens de nous dire là, c'est des choses qu'on finit par trouver de manière assez facile là, quand même, à l'heure actuelle, y compris en France, même si en réalité les Français ne cherchent pas trop cette information, mais elle est quand même accessible.
Alors, cette information, elle est accessible parce qu'il y a une poignée de gens en France qui se battent pour faire la vérité, sur ce génocide, sur les responsabilités françaises, sur l'implication française, qui se battent de façon extrêmement isolée, avec très peu de moyens. Et en fait, pour un livre qu'on arrive à publier, qui analyse les faits, qui donne des preuves, etc., il y a un ou deux bouquins qui paraissent en face, de Pierre Péan, enfin bon, des journalistes en fait de Libé ou du Monde généralement, ou des journalistes indépendants, qui font de la désinformation, qui appuient sur la thèse du double génocide, etc., qui essayent d'incriminer le Front patriotique rwandais comme étant le responsable du génocide, alors que c'est le seul acteur de toute cette histoire qui a réussi à empêcher le génocide, à le limiter, disons. À faire en sorte qu'il y ait quelques survivants, quoi.
Pour terminer, je voudrais attirer sur ce constat bien étrange. Le Rwanda, colonie belge, lâchée par les Belges grâce à une opinion publique changeante, et son voisin zaïrois, Congo, belge aussi. Comment ça se fait que ce soit ces deux pays-là, anciennes colonies belges, où il se passe ça? Est-ce que c'est une question que vous êtes posée?
Non, c'est pas une question que je me suis posée. Je pense que la Belgique avait plus les reins assez solides pour maintenir sa domination de toute façon depuis un bon bout de temps. C'est-à-dire que par exemple le Zaïre, c'était Mobutu à l'époque qui régnait sur le Zaïre d'une façon qui a été monstrueuse aussi. Mais Mobutu était plus lié à la France de toute façon qu'à la Belgique et comptait beaucoup plus sur la France que sur la Belgique pour se maintenir au pouvoir. Ensuite, Mobutu lui-même a été en partie lâché par la France. C'est un petit peu compliqué les rapports entre la France et les pays d'Afrique parce que la France maintenant, c'est une multitude de réseaux différents. Il y a les réseaux liés directement à l'Élysée, il y a les réseaux liés à l'état-major des armées, aux services secrets, il y a les réseaux liés aux grandes entreprises comme Bolloré ou Bouygues.
Total et compagnie.
Oui, alors, mais c'est-à-dire que Total... c'est est lui-même lié au service secret en fait. Quand ELF a été créé, c'était clairement pour servir de faune au service secret. Ça permettait d'empocher des millions et de financer notamment les services secrets et puis pas mal d'autres trucs. Mais disons que ça fait partie de ce que j'appelle les réseaux services secrets. À l'heure actuelle, ce sont des réseaux qui fonctionnent parfois en synergie et parfois en luttant les uns contre les autres. Par exemple, la crise. La crise en Côte d'Ivoire. Au début, ça a été des fractions opposées de ce qu'on appelle la France-Afrique qui se sont affrontées via les protagonistes en Côte d'Ivoire de façon interposée, quoi.
Parce que c'est ça qui est quand même assez triste. Souvent, les gens disent les jeunes de banlieue, quand ils sont énervés, ils commencent par ils crament des voitures, mais en réalité, ils crament les leurs dans leur propre quartier ou à quartier interposé. Et là, c'est ce qui se passe en Afrique. Les Africains se tuent entre eux plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes.
Oui, mais c'est de toute façon, ça, c'est un problème à l'échelle mondiale. C'est que les pauvres ont une conscience qui est limitée de comment fonctionnent les systèmes de domination et du fait que c'est eux les dindons de la farce, d'une certaine façon, et ont tendance à reporter leur agressivité sur d'autres pauvres ou voire plus pauvres qu'eux, etc. Et les systèmes de racisme ou de xénophobie sont vraiment organisés de façon consciente par les pouvoirs en place. Et on voit ça en France avec l'islamophobie à l'heure actuelle, pour diviser les populations et pour que le ressentiment soit reprojeté donc sur des catégories défavorisées, enfin plus faibles, vulnérables, plutôt que sur le pouvoir en place, quoi, qui est le vrai responsable.
Tu as survolé un petit peu la Côte d'Ivoire. On va pas le faire maintenant parce qu'on est déjà, on a déjà une interview assez longue. Si tu as des infos, ça pourrait être intéressant aussi d'en parler une prochaine fois.
Oui, je suis pas un spécialiste non plus de cette histoire-là. Ça vaudrait le coup d'inviter quelqu'un de Survie, parce que Survie fait un excellent travail. C'est une association Survie qui se bat contre la politique française en Afrique, qui fait un excellent travail de décortiquage, de décryptage de ce qui se passe. Mais oui, de façon générale, ce qu'on pourrait faire, c'est reparler de la France-Afrique d'une façon peut-être plus construite, c'est-à-dire comment ce système-là s'est formé. Comment il y a eu confiscation des indépendances des anciennes colonies françaises, comment en fait elles n'ont jamais été indépendantes de la France, voilà. Et comment la mainmise continue d'être effectuée sur l'ensemble des richesses de quelque chose comme 26 pays en Afrique, quoi.
Et pour terminer, le Rwanda aujourd'hui, que se passe-t-il ? La France y est-elle encore ?
Alors, la France essaye de reprendre pied là-bas. C'est-à-dire qu'il y a eu, après la victoire de Kagame, donc les forces patriotiques rwandaises, donc les Français ont dû quitter le Rwanda avec les génocidaires. Et ensuite, il y a eu une grosse période de froid. La France a gelé toute aide, y compris, je crois, toute aide internationale au régime de Kagame. C'est-à-dire que le Rwanda, qui avait été dévasté par la guerre et le génocide, en plus s'est vu refuser toute aide.
S'est retrouvé dans un embargo FMI, etc.
Oui, s'est retrouvé dans une situation mais qui était assez désastreuse. Bon, il se trouve que malheureusement, le gouvernement en place ensuite a aussi mal viré et s'est engagé à fond dans la guerre au Nord Kivu et la guerre pour la maîtrise des richesses du sous-sol au Zaïre. Donc en fait, les libérateurs sont devenus eux-mêmes des criminels de guerre, mais avec les équivalents français en face. Hein. Tous ceux qui travaillaient en sous-main pour la France en face étaient du même tonneau. Et il y a eu des crises successives entre le Rwanda et la France, dont je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais qui, de toute évidence, ont des arrière-plans économiques très forts. À un moment donné, ça a été la France qui a mis en cause Kagame, donc le chef du gouvernement rwandais actuel, qui est la personne qui a lutté contre la France, l'a mis en cause en l'accusant via le juge Bruguière en France d'avoir causé l'attentat qui avait déclenché le génocide. Alors que de toute évidence, c'est les Français qui ont causé cet attentat-là. Il y a un certain nombre de bouquins qu'on a pu publier sur la question qui sont quand même assez clairs. Donc, à ce moment-là, Kagame a répliqué en réclamant un rapport à son administration qui s'appelle le rapport Moussio. Moussio, c'est le nom du Premier ministre de l'époque, je crois, qui est un rapport qui accuse 14 personnes du gouvernement français et de l'état-major français d'être directement responsables du génocide. C'est un rapport qui est extrêmement fondé, à mon avis, qui obéit effectivement à des considérations d'ordre politique. Il s'agissait de riposter pour Kagame, mais c'est un rapport qui est complètement fondé sur des faits, au contraire du mandat d'arrêt lancé par le juge Bruguière, et qui aboutit à la mise en, je sais pas comment dire, en examen, mais sauf qu'il risque rien, mais malheureusement, de gens comme Juppé, Léotard, Villepin, etc. quoi. Un certain nombre et puis le général Husson, enfin un certain nombre de membres de l'armée qui sont vraiment impliqués à fond. Donc bon, il y a eu ça. À la suite de ça, il y a énormément de péripéties comme ça où on voit à l'heure actuelle. Oui, par exemple, quelque chose à noter, c'est que le rapport Moussio ne met pas en accusation Sarkozy lui-même, par exemple. Alors que, comme je le soulignais tout à l'heure, il était au ministère des Finances, et de toute évidence, si c'est pas lui qui a signé l'autorisation du chèque pour les machettes, en tout cas, il en a eu connaissance. Bon, c'est sûrement pas un hasard si le rapport Moussio ne mentionne pas Sarkozy. À mon avis, ça obéit à des considérations d'ordre diplomatique. C'est une sorte de rapport de force qu'ils établissent entre eux.
Donc là, aujourd'hui, en 2012, la situation est encore dans cette même politique de France-Afrique et toujours de domination possible de la
Oui.
France au Rwanda.
Eh ben non. Alors, la France n'a plus de pion au Rwanda, mais à mon avis, essaye de remettre les pieds là-bas, donc de trouver une sorte de terrain d'entente avec le régime rwandais. Là, récemment, il y a eu un juge, enfin deux juges français, dont le juge Trévidic, qui ont rendu un rapport qui condamne le rapport Bruguière précédent. Donc, le rapport Bruguière disait que c'était le Front patriotique rwandais qui avait causé l'attentat, qui avait causé le génocide. Et là, le rapport du juge Trévidic dit que non, ce n'est pas le cas, mais c'est un rapport qui omet sciemment de dire qu'en fait, de toute évidence, c'est l'armée française qui est responsable de cet attentat-là. C'est-à-dire que c'est loin d'être un rapport neutre au niveau politique. Et de toute évidence, enfin moi je l'analyse comme ça, il s'agit d'un pas du gouvernement français fait à l'égard du gouvernement rwandais pour le disculper, mais sans s'inculper soi-même pour autant, quoi.
Voilà. Soyons amis, serrons-nous la main, il ne s'est rien passé.
Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut énormément se méfier. Les échos qu'on a en général concernant toute cette histoire sont vraiment à décrypter de façon fine. Il y a des arrière-plans qui sont absolument nauséabonds de tous les côtés, quoi.
On va s'arrêter là. Avec cette introduction à la France-Afrique, si tu as des contacts avec l'association que tu as citée tout à l'heure, donc j'ai oublié le nom.
L'association Survie, dont le siège social est à Paris, qui est une association décentralisée. Il y a, je crois que c'est à Valence, il y a une antenne de survie Drôme. C'est une association qui fait un travail monumental depuis maintenant plus de 15 ans pour rendre public la face cachée, mais qui est la face réelle, en fait, des rapports France-Afrique, qui a joué un grand rôle dans le fait de rendre public l'implication française dans le génocide rwandais, mais pas uniquement. Je parlais de la guerre au Congo, c'est le cas aussi. Dans la guerre au Cameroun aussi, qui dans les années 50, c'est une guerre complètement inconnue, y compris au Cameroun même, qui a été complètement occultée, qui a fait au moins 200 000 morts, etc., etc., quoi.
Donc on pourrait les inviter, et puis alors à ce moment-là, je t'inviterai également pour participer.
Oui, ce serait vraiment une excellente chose parce que c'est un décryptage qui est vraiment utile. On croit vivre dans une démocratie, mais on vit dans un régime de gouvernement qui est tel qu'on peut accomplir un génocide qui coûte entre 1 million et 200 000, et 2 millions de morts sans que ni les médias ne nous donnent les informations qui nous permettraient d'être au courant et sans qu'on ait aucun moyen d'action contre ça, quoi. Et puis l'impunité sévit complètement. Donc parler de régime démocratique pour parler de la France, à ce niveau-là,
C'est démocratique plus ou moins peut-être pour les habitants.
Bah oui, sauf qu'on n'a strictement aucun moyen d'action sur la criminalité internationale de nos...
Contrairement à l'opinion publique belge, on n'a pas assez d'informations pour dire non.
Oui, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour ce qui concerne la politique étrangère de la France, on ne peut compter sur aucun média d'envergure nationale, clairement.
Et voilà, et nous on n'a pas une envergure nationale. Merci Yves.
Au revoir.
À bientôt.
Oui.